OK, l'ex-juge, donc, Jacques Delisle, libéré aujourd'hui. On s'en va rejoindre Jonathan Bernard, journaliste Cogeco à Québec. Bonjour, Jonathan.
Salut, Bernard.
Bon, raconte-nous ce qui s'est passé.
Ça a été, je vous dirais, très, très rapide ce matin au Palais de justice de Québec. Cette audition sur la requête pour remise en liberté de l'ex-juge Jacques Delisle. Au total, à peu près une quinzaine de minutes, parce que la couronne ne s'est pas objectée à sa remise en liberté. Ce qui a été expliqué par le procureur de la couronne, c'est qu'on revenait un peu à ce qui prévalait en 2010, soit au moment où Jacques Delisle attendait la tenue de son premier procès. C'est ce pourquoi la couronne a dit ne pas s'objecter, et bien évidemment parce que le procureur général du Canada a ordonné la tenue d'un second procès. Donc, en attendant ce second procès, ce nouveau procès, Jacques Delisle recouvrera la liberté, moyennant plusieurs conditions, donc des engagements qu'il a fait ce matin, notamment, il devra retourner vivre dans le domicile conjugal, là où son épouse, Nicole Rainville, est morte en 2009. Il lui est interdit de quitter le pays, interdit de demander ou d'obtenir un passeport, interdit également d'avoir en sa possession des armes à feu, des munitions, sans quoi il devra verser une somme de 100 000 $.
Eh boy, oui, OK. OK. Écoute, toi, t'as suivi ça quand même, Jonathan Bernard.
Oui.
T'as suivi... comment t'as réagi quand t'as vu la décision du ministre de la Justice, toi? Je suis juste curieux de savoir. Tu sais, t'es un reporter, t'es un journaliste. Oui. Moi, j'avais suivi ça aussi avec pas mal d'attention. Étais-tu surpris?
Ben, je vais t'avouer que... Plus ou moins, pour la simple et unique raison que la thèse de la défense reposait essentiellement sur la preuve balistique, pas sur la preuve circonstancielle. Et le juré, en 2012, lorsqu'il a reconnu coupable Jacques Delisle de meurtre au premier degré, on se basait pas seulement que sur la preuve balistique, mais également sur les preuves circonstancielles. Donc, par exemple, le fait que l'ex-juge Delisle avait une maîtresse. C'est quelque chose qui avait été mentionné et il y avait même eu témoignage de cette dite maîtresse lors du premier procès. Donc, il y a ça, mais il y a aussi toute la nouvelle preuve au niveau balistique et je vous épargne les détails, là, c'est passé compliqué, là, cette preuve-là. Mais ce pourquoi on a décidé d'ordonner un nouveau procès, je suis plus ou moins surpris. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que Jacques Delisle, ce matin, avait l'air visiblement très satisfait de la décision qui a été rendue pour qu'il puisse recouvrer la liberté en attendant le nouveau procès. Il a levé les bras au ciel, notamment, et il était en direct du pénitencier de la Macasa, donc par visioconférence. Et il a salué également tous ses proches qui étaient en visioconférence, qui lui envoyaient des baisers du moment où que le juge François Huot a quitté la salle d'audience. Donc, vous voyez un peu quelle était l'ambiance ce matin. Et le juge Delisle a demandé à ce que la décision de sa remise en liberté soit rapidement acheminée aux autorités pénitentiaires pour qu'il puisse recouvrer sa liberté très rapidement.
Jonathan Bernard, journaliste Cogeco à Québec, merci.
Au plaisir.
Je me tourne maintenant vers la juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonjour, Nicole.
Bonjour, Bernard.
Luc Lavoie va être avec nous. Rebonjour, Luc.
Salut.
Nicole, est-ce que tu étais surprise, toi?
Ben moi, oui. Moi, j'étais surprise. Moi, je l'ai suivi de deux façons. Je l'ai suivi de l'intérieur parce que j'étais à la magistrature à ce moment-là. Et évidemment, c'est un nombre de chocs là, qu'un collègue, qu'il soit de la Cour d'appel ou d'ailleurs, là, qu'un juge au Québec soit accusé de meurtre au premier degré. Je me souviens encore de... ça n'avait même pas de bon sens là, de voir la réaction dans les corridors, nous, quand on se promène en arrière là, des salles de cours. Ça a pris vraiment du temps avant qu'on remonte sur le banc là, parce que tout le monde était sous le choc. Mais après ça, j'ai suivi le procès comme tout le monde. Puis après ça, ben, je suis devenue juge à la retraite. Et là, j'ai commencé à faire des chroniques et à analyser. Et là, je l'ai beaucoup suivi. Je l'ai énormément commenté, ce dossier-là. Moi, je suis surprise parce que oui, c'est vrai que la preuve balistique était au centre de tout ceci. Mais évidemment, il y avait un ensemble d'autres circonstances et de facteurs, comme disait le journaliste tantôt. Et par la suite, ben il y a eu des décisions. Puis c'est un jury, hein. Puis quand un jury rend une décision, normalement, renverser un verdict, faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fondamental, une erreur en droit, souvent dans les directives. Ah, ça a été testé à la cour d'appel. Cour d'appel, c'est non, l'appel n'a pas été accepté tout. Il y a un long jugement de la cour d'appel.
Même chose avec la cour suprême.
Mais la cour suprême, c'est juste non, on l'entend pas. Là.
C'est ça. Mais alors Luc, toi, l'as-tu suivi ce procès-là dans le temps, le procès du juge de Lille?
Passionnément.
Alors, est-ce que la thèse de l'erreur judiciaire, là, quand t'as entendu là, que le ministre Lametti ordonnait un nouveau procès parce qu'il y avait des raisons de penser qu'il y avait eu erreur judiciaire, as-tu été surpris?
J'ai été abasourdi. Je suis tombé en bas de ma chaise. Parce que, comme Nicole vient de le dire, d'habitude, puis c'est très, très, très rare que le ministre de la Justice utilise ces pouvoirs-là, c'est parce qu'ils ont trouvé soit une preuve d'ADN dans un cas, soit quelque chose qui est une fondamentale erreur judiciaire. Or, ici, c'est l'interprétation du témoignage des témoins experts. Je suis tombé en bas de ma chaise maintenant. D'un autre côté, je connais très, très bien plusieurs de ses proches amis qui, eux, disent « Mais c'est pas possible, ce gars-là peut pas avoir tué sa femme comme ça avec un fusil, c'est impensable. »
Il faut se rappeler là qu'il avait donné, une fois son incarcération commencée à Sainte-Anne-des-Plaines en 2015, il avait accordé une entrevue au journaliste Alain Gravel dans laquelle il avait révélé avoir aidé sa femme souffrante à s'enlever la vie. Il avait expliqué qu'il lui avait laissé un pistolet chargé à proximité d'elle avant... de quitter le domicile. Faut jamais oublier ça là. Ça s'est rajouté après le procès parce qu'il a pas témoigné pendant le procès.
Parce qu'il avait choisi de pas témoigner.
Oui, c'est ça. C'était une erreur, Nicole Gibault, avec le recul de ne pas témoigner, n'est-ce pas?
Lui a toujours dit que c'était pas une erreur. Là. C'est son opinion à lui, Jacques Delisle. Moi et beaucoup de juristes, là, on a dit non, c'est une erreur, mais une erreur fondamentale. Puis ce qui est dommage, c'est que c'est une image qui demeurera toujours. Cette personne-là n'a pas témoigné à son procès, mais il a témoigné à Radio-Canada puis a expliqué des choses. Puis par la suite, on va avoir une revision extrêmement rare judiciaire. Fait qu'il y a des gens, il y a deux thèses, il y a des gens qui se posent la question, mais voyons donc. Monsieur, madame, tout le monde, quand on témoigne pas au procès, on absorbe le coup, là, c'est une décision stratégique. Et c'est capital dans un dossier comme ça.
Ce qui aurait été l'erreur, toi? Ça se peut-tu que le ministre ait en sa possession des informations qu'on n'a pas eues, nous autres encore? Non?
Je pense, si vous me permettez, c'est que, oubliez jamais que ce qu'il a dit à Radio-Canada, là, ça constitue une infraction, là, une assistance au suicide. C'est une assistance au suicide passible ou un homicide involontaire potentiellement passible de prison à perpétuité ou un arme. Il y avait un arme qui n'était pas non plus, qui n'avait pas d'affaire à voir à la maison. Fait que, est-ce qu'il témoignait? Est-ce qu'il allait le dire? Est-ce que c'est.
C'est ça l'affaire. Je pense que Nicole, c'est ça qui est le cœur de l'affaire. C'est qu'il a choisi de ne pas témoigner parce qu'en témoignant, soit qu'il se parjurait, soit qu'il s'auto-accusait d'avoir commis cette infraction que tu décris et d'avoir possédé une arme sans qu'elle soit enregistrée. Il y avait donc au moins deux infractions ici. Oui, mais il n'a pas témoigné parce qu'il a pensé que la preuve qui avait été présentée, il y avait suffisamment de doutes raisonnables qu'on pourrait passer par-dessus ça.
Il avait décidé, puis c'est toujours le client qui décide, juge ou pas juge, là. C'est toujours le client qui décide, mais quand il est interviewé à Radio-Canada, il en a ajouté un autre élément. C'est pas pour ça qu'il n'a pas témoigné, dit-il, c'est parce que, bon, il y avait eu une pression là, d'un membre de la famille, quelque chose là, qui était arrivé, puis que c'était pour chambouler tout ça, puis il avait accepté de ne pas dévoiler quoi que ce soit, parce que c'est infiniment grave là, d'aller dire « j'admets avoir donné l'arme ou prêté l'arme ou assisté ma femme là à se suicider à cette époque-là. » Je pense que il y a un ensemble de raisons qui a été donné et c'était pas les mêmes raisons qui avaient été données aux policiers. Il y avait tellement de versions là qui changeaient là que c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout puis qu'il n'y a pas jamais personne qui a voulu douter de la version de la couronne là-dedans parce qu'elle semblait extrêmement solide. En plus, je vais ajouter, cette preuve nouvelle, si c'est une preuve balistique, on peut l'appeler nouvelle aujourd'hui, mais est-ce qu'elle existait à l'époque? Si on était allé chercher ces experts-là, on l'aurait peut-être trouvé. On est allé chercher Swirtounov, là, que j'ai de la misère à prononcer, mais c'est un expert, il y avait peut-être un autre, puis on a tenté de faire... C'est seulement avec ça...
En tout cas,
c'est délicat, là. C'est très délicat comme ouais, circonstance.
Moi, je suis très dubitatif. Je vous le dis, là, je suis très sceptique face à cette décision du ministre. Enfin, on en saura peut-être un peu plus avec l'éventuel nouveau procès. On verra quand il y aura lieu.
Moi, je pense qu'il n'y aura pas lieu.
Ouais,
ouais, moi non plus. Je pense que je suis d'accord un peu avec toi.
À cause de son âge, 85 ans?
Ben, c'est parce que là, il y a d'autres possibilités là, de discussion avec la couronne, de d'autres choses. Là,
bon, on verra.
Il y a ça, puis il y a le fait qu'il y a déjà 9 ans de prison de fait.
C'est bon. Ça. On verra.
On verra. Nicole Gibeault, merci.
Merci.
Luc, tu t'en vas pas loin parce qu'on parle du Canadien dans un instant. Est-ce que Bergevin va transiger avant la date limite de lundi? Enfin, lundi, c'est la date limite. Restez avec nous.